C'était au début de mon intégration au sein de l'étincelle RH, qui est un cabinet de recrutement. Je sors de 6 années de salariat chez Louis Vuitton, au sein des équipes RH et recrutement. Et je viens de passer côté conseil dans un tout petit cabinet de conseil en recrutement à Nantes, dans lequel je suis chargée de missions de recrutement pour différents clients. Et là, à l'été 2015, ça fait 6 mois que j'ai rejoint le cabinet et j'ai un appel du responsable ressources humaines du site Louis Vuitton de Vendée, qui me dit qu'ils galèrent sur un recrutement qu'ils ont lancé il y a 6 mois, qu'ils ont mandaté un cabinet parisien spécialisé dans le métier en question et qu'ils n'ont toujours pas de candidats valides. Et donc, j'ai lancé l'artillerie lourde en lançant des approches directes, en lançant une annonce, avec des retours, mais finalement très peu. C'est ce à quoi on s'attendait compte tenu de la difficulté du profil. Et puis, arrive cette candidate, profil un peu atypique, puisque avant d'avoir l'expérience pertinente, elle était sportive de haut niveau. Et finalement, son expérience en RSE représentait, je crois de mémoire, à peu près 1 an et demi, mais pas beaucoup plus. Elle cochait la case de l'expérience dédiée à ce sujet-là, mais pas forcément sur une longueur d'expérience très importante. Par contre, je me souviens que dans l'entretien, elle avait montré un enthousiasme pour le projet et surtout, on lui avait fait passer des tests d'aptitude qui montraient que par rapport à la majorité de la population, elle avait des aptitudes intellectuelles qui venaient confirmer aussi le sentiment d'agilité intellectuelle qu'on détectait dans l'entretien. Vraiment, on se disait qu'elle avait une capacité à aller apprendre davantage et à aller se développer dans l'entreprise très très rapidement. Donc, je présente la candidate à mes clients. Et finalement, cette attente se résout par un retour hyper enthousiaste, un gros coup de cœur pour la personnalité de la candidate, mais quelques réserves sur la localisation, parce que le poste était localisé sur 2 ateliers et il fallait faire un part-time. Et ils n'étaient pas tout à fait sûrs qu'elle soit capable de le faire. Et là, moi, je suis passée en mode argumentation parce que j'étais assez convaincue du profil de la candidate et de son potentiel, que je connaissais le marché, que je savais qu'elle allait sans doute pas avoir beaucoup d'autres candidats. Et puis, j'étais à peu près persuadée qu'il ne serait pas posé la question de la même manière si ça avait été un homme sans enfant. Et ils finissent par se ranger, à mon avis, avec enthousiasme. Ils ne se sont pas sentis forcer la main. Et la candidate intègre l'entreprise. Tout se passe bien. Lune de miel, période d'essai validée. Et puis arrive l'hiver. Les déplacements sont plus difficiles pour elle. Elle a aussi des problématiques personnelles qui rajoutent un grain de sable dans la machine. Et peu à peu, ils finissent par relocaliser le poste sur un seul site. Mais ça ne suffit pas. La relation s'étiole et elle finira par partir au bout d'un an et demi.
En tant que recruteur, il est tentant, lors d'un processus de recrutement, de mettre tout son poids dans la balance pour que notre candidat préféré soit embauché, et ce, malgré les réticences de son futur manager. Pourtant, ne pas prendre en compte ses réticences s'avère bien souvent totalement contre-productif. La faute en incombe à un phénomène bien connu appelé prophétie autoréalisatrice, à savoir ce que je prédis se réalise. Dans ce cas précis, le manager, pas convaincu par le profil, se comportera différemment avec lui, de manière consciente ou non d'ailleurs, avec de grands risques que le nouvel embauché n'aille pas au bout de sa période d'essai. Dans cet épisode de notre série de podcast Histoire de recruteur, proposé par WeSuggest, plateforme d'évaluation des soft skills en recrutement, nous allons disséquer ce biais de la prophétie autoréalisatrice et voir ce qui se joue lorsqu'on avance tête baissée dans un processus de recrutement en passant outre les éventuelles réserves des managers. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH, et pour aborder cette thématique, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, derrière notre micro, Carole David, Talent Acquisition Manager chez Murphy. Elle nous confiera ses méthodes et astuces personnelles pour atténuer l'influence de ce biais cognitif, amener les managers à prendre conscience de leurs propres biais et améliorer, in fine, la qualité même du dialogue entre recruteurs et managers. C'est parti! Bonjour Carole et bienvenue. Un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous pour cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître encore?
Oui, bah écoute, le plaisir est pour moi, Marie-Sophie, je suis ravie d'être là. Moi, je suis recruteuse depuis quelques années maintenant, un peu plus d'une douzaine d'années. J'ai passé 6 ans chez Louis Vuitton en tant que RH recruteuse à la fois sur site de production et puis au siège sur des populations industrielles et logistiques. J'ai passé 6 ans ensuite en cabinet de conseil orienté sur du recrutement, un cabinet qui s'appelle L'Étincelle RH à Nantes, que j'ai vu grandir de 5 personnes à un petit peu plus de 20 quand j'en suis partie fin 2020. Et puis, je viens de passer 2 années en tant que freelance à explorer plein de sujets, presque tout sauf du recrutement, et dans un état d'esprit que j'ai appelé le tentage de trucs, qui m'ont amené à explorer les thématiques du produit, l'expérience client, pour finalement mieux repenser ma propre pratique du recrutement. Et finalement d'y revenir, puisque depuis décembre, j'ai rejoint Murphy, qui répare des appareils électroménagers à domicile et qui reconditionne des appareils électroménagers pour les vendre sur une boutique. Et là, j'y suis Talent Acquisition Manager, donc en charge de recrutement de façon opérationnelle et surtout en charge de l'amélioration continue de nos pratiques de recrutement de façon transversale.
Est-ce que donc les biais cognitifs, ça te parle au vu de ta formation ?
Alors oui, effectivement, je suis hyper contente de parler aujourd'hui de la thématique des biais parce que je suis de formation psychologue sociale, donc c'est forcément une thématique que j'aime beaucoup. Et notamment pour me donner conscience depuis le début de mon parcours de notre vulnérabilité dans notre prise de décision et la nécessité aussi de s'outiller pour avoir un regard plus objectif sur nos évaluations, donc ne pas rester juste sur sa propre perception lors d'un entretien, quand bien même l'entretien est structuré, mais d'essayer de trouver des indices aussi par différents autres modes d'évaluation.
Tu nous as raconté aujourd'hui une petite anecdote en lien avec le thème « J'ai poussé un manager à recruter un candidat ». Si tu devais revivre aujourd'hui en fait cette situation, qu'est-ce que tu changerais dans ton comportement et dans ta démarche ? Tu adopterais quelle attitude en fait ?
Alors, si je devais vraiment changer une chose, ça serait de réorienter la discussion de décision sur plutôt la possibilité qu'a l'entreprise, la marge de manœuvre qu'a l'entreprise à adapter les conditions du poste. Parce que finalement, on s'est vraiment concentré sur le fait que la candidate s'engage ou pas sur une problématique de localisation, alors que l'histoire montre que quelques mois plus tard, finalement, l'organisation a été changée pour relocaliser le poste. À l'époque du recrutement, c'était quelque chose d'inenvisageable et en fait que j'ai même pas pensé à questionner. Donc de façon générale, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir une discussion sur la manière dont l'entreprise et la personne vont pouvoir s'ajuster à un instant T et quelles sont les possibilités d'ajustement qu'on imagine dans la durée, plutôt que de juste se focaliser sur un contexte et des impondérables de l'entreprise sur lequel le candidat ou la candidate doit s'engager et de façon unilatérale finalement.
Donc, en fait, outre les critères mêmes de compétences de la personne, tu t'appesantirais davantage sur ces éléments pratiques liés aux deux localisations et aux possibilités aussi bien de la candidate que de l'organisation et de leur capacité d'adaptation respective pour que ça puisse fonctionner au mieux.
Tout à fait. Et finalement, faire verbaliser les efforts possibles de part et d'autre et pas juste les efforts du côté de la candidate, puisque rétrospectivement, c'était un bon profil qui a performé sur les thématiques qui lui étaient allouées. Et c'est vraiment sur cette problématique de la localisation et des déplacements qu'il y avait un doute. Et que la machine s'est grippée parce que dès qu'il y a eu des problèmes sur ce point-là qui finalement était un peu annexe par rapport au cœur du métier, on en revenait à finalement on avait déjà repéré ce point. Donc c'est de là que la relation s'est un petit peu fanée entre la candidate et l'entreprise.
Tu as choisi de nous parler de cette anecdote pour illustrer justement ce biais cognitif de la prophétie autoréalisatrice. Est-ce qu'en fait c'est un regret de ta part ? Tu penses que tu modifierais ou tu creuserais davantage certains critères, mais tu irais quand même franco.
Oui et non. Alors, de façon générale, c'est peut-être une des rares fois où j'ai autant argumenté, parce que de façon générale, je me fais pas de certitude sur les candidats. Je considère vraiment que le recrutement, c'est une évaluation du risque, et qu'on n'est jamais sûr à 100%, et certainement pas à l'étape de la décision de recrutement, où on maîtrise même pas encore tous les éléments d'intégration, d'accompagnement, etc. Donc, j'ai jamais de certitude, et là, ça a été une des rares fois, parce que je pense que j'étais dans mon enthousiasme et dans mon envie de prouver. Donc, si c'était à refaire, peut-être qu'effectivement, j'irais plus doucement. Mais je pense que j'essaierais quand même de pousser d'une certaine manière pour cette candidate, parce que j'avais des arguments marché qui étaient tout à fait solides, mais que peut-être j'aurais pu amener un peu en amont pour que le réflexe de se dire bah, « en fait, cette candidate, on ne va pas en avoir deux et on risque de ne pas en avoir du tout par ailleurs », elles viennent de la part des clients qui eux-mêmes auraient eu une compréhension du marché si je les avais alimentés avec des données bien en amont.
Pour qu'un recrutement aussi soit le plus performant possible, il y a une relation clairement qui se met en route entre recruteur et organisation. Et ça se joue pas seulement au niveau de l'entretien, mais ça se joue bien en amont de l'entretien de recrutement.
Oui, absolument. En fait, l'enjeu, il n'est pas du tout dans un débat final entre le recruteur et le manager et de qui emporte la décision. Il est dans la construction d'une vision commune et du coup, la récupération de données à partager ensemble pour que, côté recrutement et côté manager, on ait une bonne vision du marché, de la concurrence d'autres employeurs potentiels, du type de profil qu'on peut rencontrer pour ce type de métier et que, finalement, le niveau de compréhension soit le plus cohérent possible entre les deux parties et qu'on n'ait pas cette logique de débat final, quoi.
Ça, je trouve ça très intéressant parce que souvent, quand on caricature un petit peu, on peut avoir l'impression que c'est à la fin, quand il y a une shortlist ou deux, trois candidats, jusqu'à, disons, cinq maximum qui ont été rencontrés par le client, que là, on va sortir un petit peu les muscles et qu'on va sortir les différents arguments pour essayer de convaincre, de retenir tel ou tel candidat. Et que c'est à ce moment-là que ça se joue tout particulièrement. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, normalement, tu as petit à petit amené les choses également pour que l'issue soit la plus favorable possible ou aille dans ton sens ou soit la plus éclairée et judicieuse en fait.
Je peux te donner une anecdote pour ça qui est toute récente pour le coup et qui montre comment j'ai un petit peu évolué depuis 2015. Là, dans mon premier recrutement en fait chez Murphy, j'étais en charge du recrutement d'un ou d'une comptable au début de l'année 2023. On sait que le marché des comptables est assez tendu, qui plus est pour un poste parisien. Et en fait, dès le début, après avoir eu un échange de brief avec la manager, j'ai été faire mon enquête sur le terrain avant même de lui proposer des CV pour lui montrer combien de postes identiques ou tout du moins combien d'annonces identiques on pouvait trouver sur le marché à un instant T. Et on était sur plusieurs centaines de postes de comptables à Paris sur le même niveau d'expérience. Et pour lui proposer aussi un échantillon de profil sur le type d'expérience qu'elle attendait. Et notamment, on s'est rendu compte toutes les deux que sur ce profil de comptable, il était vraiment très très courant en début de parcours d'avoir des expériences courtes, successives, et que c'était une espèce de norme dans ces parcours-là. Donc ça nous a permis de désamorcer un certain nombre d'effets de surprise qu'elle aurait pu avoir au moment de rencontrer les vrais candidats ou de voir des vrais CV, puisqu'elle n'a pas eu cet a priori sur des carrières constituées d'expériences successives. Et donc, ça l'a amené à directement bien vouloir étudier des profils qui avaient des séquences courtes. De même que, bah, finalement, on a validé toutes les deux un seul profil. Et au début, elle n'était pas très à l'aise pour présenter ce seul profil au DAF. Mais en revenant à ce qu'on avait vu au début, du marché qui était tendu, des différents éléments qui faisaient que les profils n'allaient sans doute pas venir à l'appel, eh bien, en fait, elle s'est rangée, à mon avis, assez spontanément, de dire, bah, en fait, on en a un. Cette personne, elle coche toutes les cases, donc on va la présenter. Finalement, elle a été validée, sans que j'aie eu, moi, à faire le forcing.
L'idée de désamorcer les choses le maximum en amont avec le futur manager, je trouve que c'est une excellente idée. Quelle est la place à accorder au manager dans un processus de recrutement pour que le binôme recruteur-recruté soit le plus efficient possible selon toi? On dit souvent, ça c'est une de mes formules à moi, qu'il faut être deux pour danser le tango. Et je pense que ça s'applique énormément au binôme recruteur-manager.
Je suis tout à fait d'accord. Il ne peut pas y avoir de déséquilibre majeur dans le binôme. C'est le binôme qui doit prendre une décision commune. Néanmoins, je suis tout à fait à l'aise à l'idée que le manager prenne une décision finale. Parce qu'in fine, c'est cette personne-là qui va accueillir la personne recrutée, qui va l'accompagner, qui va l'aider à progresser, qui va peut-être avoir en charge l'accompagnement de points sur lesquels la personne n'est pas au niveau. Donc s'il y a un pari à faire, bah, c'est normal que le manager ou la manager fasse ce pari en priorité. Mais après, dans la conduite du processus en tant que tel, j'ai pas de conviction ou de certitude sur un ordre, par exemple, d'organisation des entretiens à privilégier. La seule chose, c'est de considérer que tout au long de la discussion, le point de vue du manager doit être considéré comme légitime. quoi qu'il arrive, la personne qu'on a en face de nous, elle a un contexte qui l'a amenée à recruter, elle a un historique potentiel de recrutement, ou alors c'est la première fois et elle flippe de comment ça va se passer, ou alors elle l'a déjà fait et peut-être ça n'a pas forcément porté ses fruits. Donc là, elle arrive avec une histoire devant nous pour recruter à nouveau, et ses réactions, elles sont le fruit de cette histoire, peut-être de ses craintes, peut-être de son enthousiasme, et il faut qu'on puisse considérer ça dans la manière d'amener des profils, dans la manière de peut-être d'argumenter, ou en tout cas d'amener des analyses alternatives sans être forcément dans un effet de réaction ou de défiance face à des postures qui parfois, certes, peuvent nous paraître décalées ou carrément discriminantes, mais ça sert à rien de les attaquer de front. Il vaut mieux essayer de détricoter le pourquoi la personne en est arrivée à cette conclusion et ensemble essayer de cheminer peut-être vers une autre conclusion ou peut-être garder la même. Mais on ne peut pas sauver le monde et on ne peut pas, nous seuls, complètement changer une personnalité et une perception des choses.
Lorsqu'on est recruteur et qu'on est convaincu qu'un candidat est parfait pour le poste à pourvoir, comment se comporter vis-à-vis d'un manager qui émet des réserves? Qu'est-ce que tu préconises? D'imposer son point de vue, d'y aller en douceur, quitte à perdre un super candidat?
Je parlerai jamais d'imposer son point de vue. Alors déjà parce que c'est pas du tout ma manière de fonctionner et ma personnalité. Et puis, je considère qu'il y a jamais de certitude par rapport à sa propre évaluation. Donc, je peux jamais affirmer que la personne, elle réussira dans un poste et qu'elle performera dans un poste. La première chose sur laquelle je m'interrogerai, c'est si j'ai absolument envie d'argumenter et de pousser un candidat, c'est qu'est-ce qui me fait dire ça à moi la première? Et est-ce qu'il n'y a pas un biais ou une perception qui fait que je suis surenthousiaste par rapport à un profil plutôt qu'à un autre? Donc, avant de questionner la perception du manager, je vais d'abord questionner la mienne. Et puis, ensuite, c'est revenir à la légitimité de la perception du manager. Et s'il a une perception qui est différente de la mienne, essayer de le faire verbaliser les raisons qui l'amènent à cette conclusion, de l'interroger pour comprendre qu'est-ce qui fait que tu arrives à cette analyse, quels sont les éléments de son comportement ou de son récit qui te font imaginer ça, etc., etc.
Je comprends bien qu'il ne faut pas forcément aller en frontal. Ce n'est pas non plus ce que je recommanderais. Après, ça peut créer de la frustration parce que si on ne va pas en frontal et qu'on veut avancer de manière un petit peu plus douce ses pions, on risque de perdre en fait le candidat dans lequel on croit beaucoup, qu'on trouve génial. Il y en a peu sur le marché, mais en fait, pour lui, c'est un peu trop tard. On ne va pas réussir à convaincre.
C'est un risque. Après, ce que j'ai en tête maintenant, c'est plutôt une logique d'itération. C'est-à-dire que là, en fait, on se parle d'une discussion à un instant T pour un candidat. On a peut-être peur qu'il n'y ait pas d'autres candidats et ce sera peut-être la réalité avant quelques semaines ou avant quelques mois. Mais si on cultive la liberté de décision du manager et que petit à petit, on l'amène à évoluer aussi dans ses perceptions, peut-être que pour ce candidat ou cette candidate, ça ne le fera pas. Mais au moins, on évite la prophétie autoréalisatrice et le « vous voyez, je l'avais dit » et en fait, ça fonctionne pas. Et puis, peut-être que pour les candidats qui arriveront après, la petite graine qu'on aura semée à un instant T aura un petit peu poussé et on sera dans une nouvelle posture pour discuter à nouveau et peut-être, du coup, faire passer d'autres messages et amener le manager à décider autrement la fois d'après. Et c'est aussi se mettre à la place du candidat ou de la candidate et se dire « est-ce que c'est vraiment lui faire une fleur ?» que de l'intégrer alors que son ou sa future manager a un gros doute et est dans une posture de défiance. Donc certes, moi ça me ferait peut-être plaisir de pourvoir le poste avec ce candidat auquel je crois beaucoup, mais en réalité c'est quand même un risque et pour l'entreprise et pour le candidat qui vaut peut-être pas le coup d'être pris. Peut-être que quelques mois plus tard, si le manager a évolué, on pourra reconsidérer les choses pour cette personne ou pour une autre.
Ça peut avoir un effet pervers qui est, j'exagère, de presque mettre une cible dans le dos en fait de ce collaborateur parce qu'il va être attendu au tournant et le manager risque consciemment ou non de lui savonner la planche.
Ouais, et vraiment en plus ça peut être tout à fait inconscient. Là, je suis persuadée que dans l'anecdote que j'ai contée chez Louis Vuitton, tout le monde était vraiment enthousiaste au début. Simplement, à partir du moment où ça a commencé à être difficile du point de vue des déplacements, en fait, il n'y a pas eu du tout de réflexe de dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour faciliter les choses? On en est tout de suite revenu à « On avait déjà ce doute-là. Donc, en fait, on va juste attendre que la personne nous prouve qu'elle s'était engagée à respecter cette logique de localisation et de déplacement et qu'elle le fasse. Alors que si ça avait été peut-être amené plus dans cette logique d'ajustement mutuel dès le début, eh bien, au moment où ça a été difficile, peut-être que côté client, ils auraient eu le réflexe de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour faciliter les choses si ça devient difficile pour la personne ?
Carole, en plus d'argumenter en faveur d'un candidat, quelles sont les cartes que tu peux abattre pour lever les derniers doutes d'un manager sur un candidat ?
Alors, il y a à la fois travailler sur l'analyse du candidat en lui-même, donc déjà cerner quels sont les points de doute et proposer peut-être des manières d'évaluer ces points-là de façon très ciblée. Donc, pourquoi pas proposer une étude de cas si on n'en a pas fait. Je ne le fais pas du tout de façon systématique, mais de façon très ponctuelle. Si une prise de référence peut rassurer, eh bien, pourquoi pas mettre en œuvre ce type de pratique. Je reviens toujours à cette logique d'avoir une compréhension du marché, parce que bien souvent, quand on a envie de forcer le recrutement d'un candidat, c'est parce qu'on sait qu'on risque de ne pas en avoir beaucoup d'autres. Et du coup, là, c'est souvent aussi que le manager n'a pas conscience de cette pénurie ou vraiment de la tension du marché. Donc, je reviendrai à des datas, des données sur combien de personnes on a réussi à approcher, avec combien de personnes on a échangé, quels étaient les arguments pour toutes les personnes qui n'ont pas souhaité continuer et aller jusqu'à rencontrer le manager et qui ont préféré abandonner. Parce que finalement, c'est un biais que les managers ont. Ils ne voient que les personnes qui ont été suffisamment enthousiastes pour avancer jusqu'au bout. Mais ils ont tendance à ne pas voir toutes les personnes qui se sont désistées et qui sont une représentation des raisons pour lesquelles on peut avoir des difficultés à aller toucher des profils.
Et les échantillons de travail, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Si on parle échantillon de travail au sens de montrer un exemple de projet qu'on a réalisé, pourquoi pas ? Mais après, on peut vite se confronter à des problématiques, par exemple, de confidentialité, qui peuvent être problématiques. Par contre, si c'est faire le récit, par exemple, d'un projet et de raconter le rôle qu'on a eu et en quoi c'était difficile et ce à quoi on a abouti, pourquoi pas ? Mais de là à montrer vraiment des échantillons de travail, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça.
D'accord. Bon, j'avoue, moi, à titre personnel, par rapport en plus à l'étude de Schmidt et Hunter, l'échantillon de travail arrive à 29% de taux de prédictivité, quelque chose que j'affectionne tout particulièrement pour essayer de faire pencher la balance, peut-être en douceur. Que penses-tu des recruteurs qui disent que la principale et première source de confiance dans leur prise de décision, c'est leur intuition ?
Je suis complètement contre parce que, d'une part, d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens, ça ne fait pas partie des méthodologies ou des sources d'analyse qui sont reconnues comme suffisamment prédictives. Et puis, c'est une démonstration de certitude qui me semble être une démonstration d'un manque d'humilité absolu. Donc, je ne peux absolument pas être d'accord avec ces prises de position.
Pour finir, Carole, quel est ton meilleur conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les aider à limiter l'impact du biais de prophétie autoréalisatrice ?
Bien, je dirais que c'est d'avoir une discussion la plus ouverte, la plus authentique possible avec le manager qui recrute pour l'amener à verbaliser ses doutes et potentiellement l'aider à analyser quel biais pourrait l'amener à ses doutes. Et puis, s'autoriser aussi à évoquer ses propres perceptions, y compris celles qu'on a réussi à dépasser, et peut-être les biais qu'on a rencontrés, les a priori qu'on a pu avoir sur les candidats et qu'on a réussi à dépasser, et se montrer en général en vulnérabilité, aide beaucoup à baisser le niveau de défiance qu'un manager peut avoir quand on est dans une discussion et qu'on essaie un petit peu d'aller argumenter dans le sens inverse de son analyse.
Un grand merci, Carole, de t'être prêtée à l'exercice et d'avoir accepté notre invitation du jour.
Ben merci pour l'invitation. C'était un plaisir et j'écouterai tous les épisodes avec grand plaisir aussi.
Quel recruteur ne serait pas tenté de mettre tout son poids dans la balance pour faire embaucher coûte que coûte son candidat chouchou, et ce, malgré les réserves émises par son futur manager ? Heureusement, ce piège classique peut être évité grâce à la mise en œuvre des conseils et astuces personnels que Carole a eu la gentillesse de partager avec nous lors de cet épisode. À savoir le bannissement de l'attaque frontale, la mise en place d'un processus d'itération et la pratique systématisée de l'échantillon de profil en amont. Tout cela permet d'atténuer les effets néfastes de ce biais et d'améliorer, cerise sur le gâteau, la qualité même de la relation entre recruteur et manager. Vous venez d'écouter Histoire de recruteurs, le jour où j'ai poussé un manager à recruter un candidat. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.